Maison cinématographique avec des projections à 6$ pour la communauté étudiante et à 8,50$ pour le grand public. Cinéphile, on se revoit dès le 17 septembre. Programmation complète sur la page Facebook du Cinécampus de l'Université de Montréal.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Allô tout le monde, il est midi, vous êtes bien sur CISM 89.3 et vous écoutez Bulle d'écoute, votre émission hebdomadaire. On se réunit tous les mardis de midi à 13h pour parler, discuter, débattre sur des sujets divers et variés, de la politique à la culture, en passant par l'écologie. Aujourd'hui, je suis votre animateur, Tristan, pour cette émission. Très content d'être avec vous. Et cette semaine, comme les semaines précédentes, je suis accompagné de mes merveilleuses collègues, Annie, Maïna, Lauriane et Mélissa. Comment allez-vous?
Allô tout le monde.
Allô, ça va bien?
Ça va bien.
Alors ici, on se réunit comme chaque semaine pour échanger, explorer, débattre, revisiter des sujets d'actualité et des thématiques qui résonnent en nous, étudiants en journalisme à l'Université de Montréal, mais qui vous touchent aussi. Alors chaque semaine, à tous les mardis, on s'empare du micro de CISM pour vous faire découvrir nos trouvailles et en discuter ensemble. Alors embarquez avec nous et entrez dans notre bulle. Aujourd'hui, on va parler avec Anne-Li et Maïna de produits hygiéniques et de contraception masculine avec notre invitée Elodie. Dans la bulle culture de Mélissa, nous recevrons Megan Hawk pour nous parler du lancement de son nouvel album à venir cet automne et de la place des femmes dans l'industrie de la musique au Québec. Puis pour finir, une bulle sur le tourisme spatial avec Lauriane. En bref, en ce début d'émission, je voulais vous parler de Brian Johnson. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai vu une émission hier sur Brut, un reportage. C'est un multimillionnaire qui ne veut pas mourir. Du coup, il essaie de tout faire pour rajeunir. C'est un reportage sur Brut. On parlait d'esthétique en plus l'émission précédente sur le blanchiment des dents. Du coup, je trouvais que c'était un peu dans la même thématique. Lui, il essaie de son côté de rajeunir. Donc, il fait tout pour essayer de rajeunir au maximum. Une heure de sport par jour, en s'endormant tous les jours à la même heure, etc., etc. Mais il va vraiment jusqu'à faire des transfusions sanguines de son propre fils pour essayer de rajeunir son corps.
Est-ce que ça marche?
Wow.
Ça marche pas trop, non.
Pas encore.
On lui a dit qu'au final, avec les tests qu'il faisait, etc., que ça marchait pas tant. Mais je vous conseille ce reportage-là. C'est vraiment intéressant, là, genre. C'est vraiment une personne là qui dédie sa vie pour essayer de ne pas mourir. Moi, ça m'a fait penser au film, je sais pas si vous l'avez déjà vu, au film L'étrange histoire de Benjamin Button.
Non, je connais pas.
Vous l'avez
pas
vu?
Non.
Je vous le conseille. En tout cas, on parle de corps humain et on va tout de suite continuer dans ce thème. En parlant de produits hygiéniques et de contraception masculine avec Anne-Li et Maïna.
Oui, allô tout le monde. Ben en fait, l'accès aux produits hygiéniques, on en parle sans cesse. C'est des produits qui coûtent de plus en plus cher, malgré plusieurs tentatives pour la mise en place de mesures de gratuité ou alors d'allocation. C'est toujours une peine perdue. On sait que c'est cher. D'ailleurs, c'est pas une surprise. On sait que l'inflation a quand même un rôle à jouer là-dedans. À votre avis, moi j'ai une question pour vous. Vous pensez que le prix des articles, il a augmenté de combien de pourcents? Ce serait quoi votre guess?
Probablement 2 à 5%, je sais pas.
Ok, ouais, on est quand même dans une bonne tranche.
Oh, j'en ai aucune idée.
Eh ben, écoutez, le prix des articles d'hygiène a augmenté de 3% entre juin 2023 et juin 2024 et 10% au cours des deux dernières années, soit près du double de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. C'est énorme. Alors, on peut se demander si cette hausse des prix, elle est seulement liée à l'inflation. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs, notamment l'augmentation des prix de matières premières comme le papier, le coton. Mais moi, un autre facteur justement qui m'a d'ailleurs surprise, c'est le manque de concurrence. Parce que quand on va au supermarché, au Jean Coutu, tout ça, on voit qu'il y a quand même plein de marques. Mais en fait, c'est un secteur qui est quand même comparé à celui des forfaits téléphoniques. Les marques qui détiennent un certain monopole grâce à leur popularité. Et en fait, le manque de concurrence fait en sorte que les prix restent élevés parce qu'elles n'ont aucune raison de s'adapter aux autres concurrences sur le marché. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment alarmants, sachant qu'il existe. Ok, je vais vous poser la question, ce sera plus simple. Vous pensez Quel montant paye une femme au cours de sa vie pour l'achat des produits hygiéniques? Attention, j'ai quatre choix de réponse. 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $ ou 6 000 $? Oui, Mélissa?
Ben, honnêtement, j'avoue, j'y pense pas vraiment, mais j'en achète quand même vraiment souvent, fait que je dirais probablement 4 000 au moins. Là, okay. Mais j'ai aucune idée.
Est-ce qu'on aurait un autre choix?
Moi, j'aurais peut-être dit plus 5 000 même, ouais.
Élodie, notre experte, nous parle 5 000. OK, eh ben, écoutez, c'est 6 000 $. C'est, en général, ce qui est estimé qu'une femme dépensera au cours de sa vie pour se procurer des produits menstruels. Vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des petits tips à partager de comment vous faites pour payer les produits moins chers? Qu'est-ce que vous avez mis en place?
Ben moi, je participe en payant les pilules à ma copine.
Tu me niaises. On adore.
Tous les trois, quatre mois. Là, genre, peut-être pas tous les mois, là, mais genre, c'est ça.
Tristan, homme à marier.
C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça monte vite les prix à la longue. Là, c'est comme...
Et puis, ben, moi, c'est juste que ça vient, c'est un peu naturel, dans le sens où quand c'est quelque chose comme ça qui parle de contraception, ça nous inclut en tant que femme, en tant qu'homme, surtout quand t'es dans un couple, etc. Là, donc ça me semblait logique, surtout que j'ai pas de contraception moi, donc.
Tu te sens quand même concerné par la question?
Bah, je pense que on devrait tous se sentir concerné un minimum, okay. Je pense.
Intéressant. Ouais, Lauriane.
Sinon, il y a aussi les produits hygiéniques réutilisables. Tu sais, les serviettes pour dormir, mettons. Je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas super agréable d'avoir une serviette. Faut que tu nettoies dans le lavabo, là, c'est pas super utile, mais. Le soir, ouais. Oui.
Même que moi aussi, où je travaille, on a des nouvelles culottes pour femmes, que c'est pour les menstruations. Donc, okay. T'as même pas besoin de porter rien.
Okay,
c'est
mais,
nouveau.
OK, mais c'est vraiment des bons tips. Tristan, je suis vraiment impressionnée par ce que tu mets en place. Vraiment, ayez Tristan dans votre vie.
Ça donne des idées.
Moi, c'est ça. Les autres, prenez exemple. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une nouvelle loi qui est venue modifier le Code canadien du travail? Elle a été mise en place le 15 décembre 2023. Et en fait, cette nouvelle loi, elle oblige les employeurs sous réglementation fédérale à fournir gratuitement des produits menstruels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça veut dire que les employeurs comme les ministères de la fonction publique fédérale, les sociétés d'État, les banques, les aéroports, les gares ferroviaires, elles vont devoir fournir gratuitement des produits menstruels dans les toilettes de leurs employés, ainsi qu'un contenant couvert dédié à l'élimination des déchets dans chaque cabine de toilette, y compris dans celle des hommes. Mais on voit que c'est pas du tout pris au sérieux. Quand bien même une mesure elle est mise en place, les choses sont pas prises en main et réellement appliquées. C'est ce qu'explique la directrice de marketing de la division canadienne de Citron Hygiène, Krista Pleos. C'est en fait Citron Hygiène, c'est la marque qui offre justement la mise en place des distributeurs de protection hygiénique pour cette loi qui a été mise en place. Mais voilà, certains employeurs sont toujours pas au courant, les distributeurs sont pas installés non plus, donc ça met du temps. On peut se demander, est-ce que ça va réellement être effectif? Est-ce que d'autres branches de métiers pourraient y avoir accès? À ça s'ajoute toutes les nombreuses critiques, d'ailleurs selon les commentaires des utilisateurs que j'ai pu lire sous les articles de Radio-Canada, je cite, et ce de manière anonyme. « Mesdames, si vous n'êtes pas prévoyantes, ce n'est pas à votre employeur de payer pour ça. Je suis dans la quarantaine et jamais je n'ai été prise au dépourvu. C'est votre responsabilité, votre corps. » Deuxième commentaire, « La salle de bain est là pour deux besoins que tout être humain connaît. On nous fournit donc des toilettes, des urinoirs et du papier toilette. Les règles sont un phénomène biologique et naturel, mais est-ce la responsabilité de l'employeur de fournir nos tampons et serviettes? » Écoutez, mesdames, la question est à se poser. C'est pourquoi appliquer cette mesure seulement pour les... En fait, c'est ça ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on appliquerait cette mesure seulement pour des personnes qui sont régies par le fédéral, autrement dit des personnes qui possèdent aujourd'hui les moyens financiers, des moyens qui sont largement convenables pour accéder à ces produits, sauf exception, bien sûr, on fait pas de... Ici, il s'agit juste d'une généralisation. Pourquoi on met pas ça en place dans les cégeps, les universités, les toilettes publiques pour les personnes en situation précaire, les sans-abri, etc. Sachant qu'on le rappellera jamais assez souvent, il s'agit de produits de première nécessité au même titre que le papier toilette ou l'eau. D'ailleurs, l'eau qui est offerte gratuitement aux abreuvoirs, chose qui n'existe pas en France. C'est sûr qu'on pourrait penser que... Ben, en tout cas, ma vision, mon opinion est biaisée parce que je suis une femme, mais ce serait exactement la même chose si les hommes avaient besoin de produits de première nécessité, puis que ça les empêchait d'être productifs, que ce soit au travail, dans les études, etc. Si on regarde sur la scène internationale, il y a déjà plusieurs pays qui ont sauté le pas. Quel pays, vous pensez, ce serait quoi des pays qui vous viennent en tête qui sont plus en avant comparé à d'autres? Oui, Elodie?
Je sais pas, je dirais un pays comme en Europe du Nord, peut-être Suède ou Finlande, je sais pas.
Exactement. Et ben c'est en Écosse que depuis le 15 août, c'est la première nation au monde où les protections périodiques, donc tout ce qui est serviettes, tampons, sont disponibles gratuitement pour quiconque qui en a besoin. Vraiment, vraiment n'importe qui. C'est une loi qui avait été votée à l'unanimité par le Parlement écossais en 2020 et qui est désormais en vigueur. Et donc, ça impose aux collectivités locales et aux institutions éducatives de les rendre accessibles librement. Alors oui, Montréal essaye quand même de faire de son mieux. On voit qu'il y a certaines municipalités de Montréal qui sont positives au changement. Dans certains arrondissements, ils ont même mis en place des programmes spécifiques comme des subventions pour l'utilisation de produits menstruels durables. Alors, comment ça fonctionne? C'est en fonction de chaque arrondissement, il y a un montant forfaitaire qui est remboursé pour l'achat de produits comme des cups ou des culottes menstruelles. Mais bon, on voit que c'est pas totalement impossible grâce à cette mesure. On voit, d'ailleurs, on a avec nous Elodie, étudiante au bac en études internationales, qui elle a réussi à mettre en place l'installation de 3 machines de protection hygiénique dans son cégep. Elodie, merci d'être avec nous. Bienvenue.
Merci à tout le monde.
Dis, d'où t'es venue l'idée de mettre en place cette mesure, surtout au cégep? T'étais jeune, t'avais quel âge?
Je pense que j'avais environ peut-être 17-18 ans. Non, 18 ans en fait, ouais.
Ok, ouais.
C'était à ma deuxième année de cégep, puis je savais que ça existait dans d'autres écoles, peut-être pas. Ben, je pense qu'il y en a au Québec, je sais pas c'est lesquelles, mais j'avais déjà entendu parler. Je savais aussi que mon père, il est paramédic, puis dans son entreprise, lui-même, il avait accès, ben, toutes les femmes d'entreprise, il avait accès à des produits menstruels gratuitement par leur employeur. Fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, puis je me suis dit que ça pouvait peut-être être possible dans mon propre cégep.
Fait que c'est quelque chose avec lequel t'as grandi, t'as eu cette image, puis t'as voulu essayer de la remettre à ton échelle.
Exact, ouais. Ouais.
Puis c'est quoi concrètement ce qui a été mis en place?
Ben, en fait, j'ai fait une demande de subvention pour avoir accès à des machines. Puis, on a acheté comme un premier pack de départ pour avoir des serviettes puis des tampons. Puis, après, c'est devenu comme une dépense courante du cégep, comme s'il achetait du papier de toilette. Puis, avec le reste de l'argent de la subvention, on a réussi à acheter des produits réutilisables, menstruels. Fait qu'on a eu des DivaCup, on a eu des serviettes. Et des, ben, non, en fait, c'est des serviettes réutilisable aussi, qu'on a donné comme c'était genre à la disposition des étudiants pendant jusqu'à temps qu'il y ait épuisement des stocks. Puis c'est ça. Fait que la communauté étudiante a pu en profiter pleinement.
Comment t'as réussi à justement mettre en place un financement, quelque chose qui n'était pas mis déjà avant? Comment t'as fait justement pour que l'école se dise « Ok, on va, dans nos finances, faire une part pour les femmes, pour pouvoir les accommoder? »
Ben, en fait, au début, je voulais leur prouver que c'était quand même un besoin pour la communauté étudiante. On est dans une région qui est quand même un minimum défavorisé. Fait que j'ai fait un genre de projet pilote. J'ai mis un petit plat avec déjà des tampons, des serviettes qu'on avait achetées avec le budget de notre asso étudiante. Puis on a vraiment vu que dès la première semaine, comme ça a vraiment été utilisé, les étudiantes en ont profité et tout. Fait que en ayant ces statistiques-là, après ça, je suis pu aller voir la direction puis montrer que c'était un besoin dans le cégep. Puis ils ont reconnu, puis ils ont fait les démarches après pour m'aider.
Puis est-ce que justement c'est compliqué de passer de l'idée à la réalisation concrète du projet? Est-ce que tu as eu des embûches? Comment ça s'est passé?
En fait, non, j'ai vraiment pas eu d'embûches. Tantôt, je regardais encore la fiche de toute la planification du projet et tout, puis ils disaient, tu sais, est-ce que votre projet a changé? Puis finalement, au départ, c'est vraiment la même idée qui a été appliquée, puis ça s'est super bien passé. J'ai pas eu d'embûches. Je l'ai fait comme presque tout seul, le projet, puis j'ai pas eu de difficultés. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Fait que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. Là, j'étais quand même dans un cégep qui était plus petit. On était peut-être, vous allez peut-être rire, on était comme 300 étudiants à peu près. Mais fait que c'est plus facile pour les démarches. Puis après ça, les dépenses, c'est moins des grandes dépenses importantes pour le cégep. Mais voilà.
Mais ça montre que c'est pas impossible finalement.
Exactement.
Si c'est possible à petite échelle, pourquoi ne pas le faire à grande échelle?
C'est
Mais
ça.
Justement, est-ce que tu aurais des astuces à donner pour ceux qui nous écoutent, parce que par exemple à l'Université de Montréal, je sais que c'est pas mis en place. Est-ce que tu aurais des conseils pour que ce soit appliqué à plus grande échelle, dans d'autres cégeps, etc.? Qu'est-ce que tu es la voix de la sagesse?
Je suis tellement pas la voix de la sagesse. Je sais pas, mais moi, j'irais vraiment comme si vous voulez juste prendre l'initiative que vous dites comme, hey, ça pourrait être un beau projet à faire, de juste aller parler ça peut être aux enseignants ou à ceux qui s'occupent de comme toute la distribution justement du matériel dans les écoles pour voir si ça pourrait être une possibilité. Puis juste de comme faire un premier pas, vous pouvez voir si c'est vraiment des démarches qui sont possibles. Puis après ça, peut-être que les gens vont vous encourager puis ils vont vous dire des suggestions de financement que vous pourriez avoir, puis le projet va partir, finalement ça va fonctionner. Fait que ce serait peut-être mon petit truc.
Parlant
d'options de remboursement. En France, depuis janvier 2023, les professionnels pharmaceutiques proposent des préservatifs masculins sans prescription médicale qui sont pris en charge à 100 %
OK, gratuitement.
Ouais. Okay. Comme l'assurance maladie, ben comme l'assurance maladie ici la RAMQ dans le fond, puis depuis le 9 janvier 2024, ben cette démarche est aussi applicable pour les préservatifs féminins. Fait que ça avance là. Je vous parle de ça parce que les mesures pour la gratuité des produits menstruels ont beaucoup été critiquées parce que ça serait selon les retours aux femmes de s'occuper de leur corps car il s'agit de leur responsabilité. Mais si les préservatifs étaient accessibles gratuitement, pourquoi ne pas rendre les dispositifs de contraception gratuits aussi? Parce que selon Santé Canada, le corps de la population utilise un médicament contraceptif, mais les prix restent élevés, puis ça empêche beaucoup de femmes de se procurer, justement, ceux qui ont des situations financières précaires, de se procurer des contraceptifs. J'ai une petite question pour vous. On va commencer par, selon vous, quel est le contraceptif le plus utilisé chez la femme, mis à part, évidemment, le condom? Il y a le contraceptif oral, le timbre, l'injection, l'anneau vaginal et le stérilet, selon vous.
C'est quoi que t'entends parler par le timbre? Sur le patch?
Ouais.
OK, OK.
Je sais pas du tout. Je dirais le stérilet, peut-être. Je sais pas.
Est-ce que j'aurais tenté la même réponse aussi?
C'est le contraceptif oral suivi du contraceptif de stérilet. Il y a 35 % des femmes qui utilisent le contraceptif oral, puis il y a 25 % qui utilisent le stérilet. Les contraceptifs oraux coûtent environ 25 $ par unité sur un cycle de 28 jours. Donc, une fois par mois, ils doivent l'acheter. Je disais tantôt, 34 % des femmes l'utilisent. C'est environ 300 $ par année. S'ajoute à ça, justement, les produits hygiéniques. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Le stérilet, lui, coûte 500 $ aux 5 ans, par contre. Donc, c'est un gros prix, mais ça, c'est seulement le hormonal qui est remboursé. Le non-hormonal, il n'est pas couvert par la RAMQ.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Le stérilet, je pense que... Ben, c'est ce que tu as dit, c'est il est moins utilisé, right?
25 %
Ouais, 25 %. Mais parce que je pense qu'il y a plus de tabous sur son utilisation. En tout cas, je sais que de là où je viens, c'était plus comme non, mais le stérilet, c'est une fois que tu as eu des enfants, tu peux pas le mettre si tu n'as pas eu d'enfants. Alors qu'en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. La preuve, j'en ai un. Je n'ai pas eu d'enfants. Mais c'est ça, c'est pas remboursé. Puis ça m'a quand même coûté un bras. Mais moi, ça m'a sauvé la vie. Je trouve que c'est la meilleure contraception que j'ai mis en place. Parce que justement, ça coûte un petit peu moins cher. Puis au moins, genre, il n'y a pas d'oubli. Puis je suis comme OK. Je vais pas avoir de stress si jamais.
Mais tu vois, moi, je fais partie de ce monde-là qui a comme un peu une réticence avec le stérilet. Fait que j'utilise le timbre contraceptif. C'est une fois par semaine. Chacun ses moyens de contraception.
Mais je trouve ça incroyable qu'on ait autant d'options et qu'ils fonctionnent, qu'il y en a vraiment pour chaque personne, puis en fonction de ses préférences, etc.
Exact. Selon nos besoins. Mm-hmm. Sans hormones, avec hormones. Mais c'est les hormones qui sont principalement remboursées par la RAMQ. Ouais. D'ailleurs, d'après vous, quel est le prix couvert par année? On va y aller avec la contraception la plus utilisée, qui est la contraception orale, pour les 18 à 65 ans. Il y a A, 80 $, B, 120 $, C, 50 $, D, 60 $. Ça, c'est par année.
Moi, je pense pas beaucoup, là. Je dirais 60.
T'es pile poil. 59 $ par année, c'est 19 % du prix annuel. Là, c'est minime. Là. La couverture au privé, évidemment, on rappelle que ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de chaque place. Fait que on peut pas s'avancer là-dessus. En France, là, la pilule est gratuite jusqu'à 25 ans. Mm-hmm. C'est fou. Là, ici, ben, ici on aurait un petit peu à faire. Parce que, justement, historiquement, la femme est responsable de la contraception. Ça a été attribué principalement à nous. Parce que depuis les années 1960, quand la pilule contraceptive a été introduite, le discours autour de la contraception a surtout visé nous, les femmes. Ça a amené à une certaine normalisation de la chose. Puis ça a comme perduré dans le temps. On s'est pas posé de questions jusqu'à aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, on en parle beaucoup. Selon vous, pourquoi les contraceptions masculines sont moins recherchées?
Je pense que c'est une question de dans notre société, je pense. C'est pas mal, ça part de ça, pas mal, je pense. Mais c'est une bonne question, hein, c'est une question...
Ben oui, évidemment, ça part justement... T'avais une réponse?
Ben oui, mais moi, en fait, j'avais entendu par un médecin qui disait que, en fait, en tant que médecin, tu peux prescrire à quelqu'un des médicaments si c'est équivalent ou mieux que le mal qui est en cause. Mon Dieu, désolée, c'est pas très clair. Mais la pilule contraceptive pour hommes, c'est un peu ambigu comme de prescrire ça parce que ça n'enlève aucun mot, en fait. Donc, c'est niveau éthique pour un médecin, à ce que j'ai entendu, c'est plus complexe. Tandis que pour une femme, tous les risques qu'une femme a, aller à la grossesse, donc ça en vaut plus la peine que pour un homme. Donc, c'est plus au niveau éthique.
Ah, ben oui, ben justement, aussi, s'ajoute à ça, ben la complexité biologique. Parce que là, nous, on est fertile environ 14 jours par mois. OK? Fait que là, s'il y a des effets secondaires, ça s'applique surtout dans ces journées-là. Mais l'homme produit des millions de spermatozoïdes par jour, en plus de la testostérone. Fait que c'est plus facile à cibler puis à gérer pour une femme avec les contraceptifs hormonaux, non-hormonaux, puis les calendriers. Quelqu'un qui veut pas prendre une contraception, elle peut gérer son ovulation par calendrier également. Puis, ben, ça amène chez l'homme aussi, ça peut amener des effets secondaires que c'est moins facile à gérer sur 30 jours, donc tout le temps, qu'une femme. Donc, ça rend un peu le développement d'options contraceptives complexes. Mmh. Fait que là, on va parler des différents types de contraception qui existent parce que plusieurs articles de presse puis une partie de l'épisode de découverte de samedi dernier a été consacré à la contraception masculine cette semaine. On en parle de plus en plus. Par contre, les options disponibles restent limitées par rapport aux méthodes féminines et sont encore à l'étude. Aujourd'hui, on parle principalement du préservatif puis de la vasectomie. Le préservatif est celui qui est le plus utilisé parce qu'il offre une double protection, à la fois protégeant de la grossesse et les ITS. La vasectomie est une méthode de stérilisation simple et peut être réversible. À 50 ans, il y a le tiers des hommes qui sont vasectomisés. Selon vous, l'option réversible de la vasectomie est efficace à quel pourcentage? A, 50 %, B, 75 %, C, 100 % et D, 25 %.
Moi, je pense que le risque zéro n'existe jamais. Je dirais 75.
Pareil, ouais.
C'est un peu plus bas que ça. Ouais. La vasectomie réversible, aussi appelée la vasovasectomie, donne 50 % de chances de retrouver sa fertilité. Puis tout ça, en plus, dépend de ça fait combien de temps qu'il a été vasectomisé. Puis on rappelle que la vasectomie prend quelques minutes à être effectuée, mais la vasovasectomie, donc l'option réversible, c'est 2 à 3 heures d'intervention sans une garantie que ça fonctionne. D'ailleurs, le docteur Michel Labrec en parle dans son épisode de découverte samedi dernier. Bien qu'elle soit réversible, il est important de mentionner qu'il n'y a aucune garantie. Parce que j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de la vasectomie, mais c'est important de savoir ces points-là parce que c'est pas une option comme le préservatif que c'est facile. Est-ce qu'il y en a parmi vous, justement, qui ont entendu parler des autres méthodes de contraception masculine outre la vasectomie et le préservatif?
Je sais qu'il y a la pilule masculine, je crois qu'on en parle, on commence à en parler de plus en plus.
Ben justement, je sais que c'est celle-là qu'on entend un peu plus parler. Fait que moi, je voulais aller un petit peu plus creux dans les contraceptions hormonales comme la NEST, la Nestrone Testostérone. Avez-vous déjà entendu parler de ça?
Non.
Pas du tout.
Non. On rappelle que c'est pas encore commercialisé au Québec en raison des effets secondaires importants. Dans le fond, c'est un gel hormonal qui passe à travers la peau. Un peu comme le thème contraceptif, ça interrompt la production du spermatozoïde dans les testicules, au même titre justement que la contraception orale ou le thème. Mais ça demande plus de prévention. Parce que dans le fond, dès que tu appliques le gel, faut pas que tu aies un contact peau à peau avec qui que ce soit, parce que ça contient la testostérone. Pourquoi ça contient de la testostérone? Vu qu'il y a de la nestrone qui bloque les spermatozoïdes, ben c'est important de compenser avec la testostérone, parce que l'homme, ben c'est avec ça qu'il y a de la libido. Puis c'est important d'en introduire aussi. Fait que c'est important de, si tu l'appliques, tu gardes un contact.
Non, c'est bon, j'ai écouté.
Ce gel a été développé par la Population Council, c'est une organisation à but non lucratif américain qui œuvre à la recherche de nouveaux moyens de contraception. Regine Strickware, endocrinologue, en parle dans l'épisode de découverte. Aussi, ça, c'est réversible. Donc, dès l'arrêt du traitement, la production de spermatozoïdes reprend au même titre qu'une femme qui arrête sa contraception. Il y a quand même un inconvénient à ça, comme je disais, parce que ça peut amener des effets secondaires, l'ajout de testostérone qui n'est pas la tienne. En plus, ben du fait qu'il faut que tu n'aies pas de contact avec quelqu'un peau à peau pour les prochaines heures. Il y a aussi d'autres méthodes de contraception en cours de développement ou en étude. Le gel Rizug, qui est à la troisième phase de ses cliniques, développé par l'Institut indien de technologie de Kharagpur, pardon, en Inde. C'est une méthode prometteuse qu'ils aiment étudier puis qu'ils veulent peut-être mettre en marché, qui consiste à injecter un gel dans les canaux différents, dans le fond, dans les testicules, qui bloque temporairement les spermatozoïdes. Fait que là, c'est sûr que ça, c'est une autre option, mais c'est sûr que ça implique une piqûre, puis c'est pas tout le monde, je pense, qui serait partant pour ça.
Je pense que même moi, si tu me disais de faire une piqûre dans mes ovaires ou de quoi, je serais comme, ouh,
un peu réticente. Plus réticente,
mais ouais. les méthodes de contraception pour les hommes ont l'air plus compliquées. Est-ce que t'as des infos sur la pilule? Est-ce que c'est encore en phase clinique ou est-ce qu'ils ont déjà commencé à la vendre? Parce que je sais qu'il y avait un moment donné, on en entendait énormément parler. Est-ce que tu sais s'il y avait des avancées ou pas là-dessus?
Non, moi je suis plus allée dans le comme tout ce qui est gel puis tout ça puis piqûre, tu sais, des affaires qu'on entend moins parler. Je voulais creuser plus là-dessus. On est d'ailleurs allé demander vite en ville, demander à des gens s'ils seraient prêts à utiliser une contraception masculine.
Oui, je serais willing de l'essayer puis de développer des technologies pour que ce soit safe pour tout le monde puis qu'il y ait des opportunités pour les deux sexes.
En vrai, oui, je pense que oui. C'est quand même assez compliqué parce que, en vrai, j'y ai jamais pensé, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais je pense que oui, si c'est assez contrôlé, etc., c'est important de s'y investir, nous aussi, je pense.
Si c'est aussi fiable que la femme, pourquoi pas?
La pilule, pourquoi pas? Le gel, à voir. L'injection, non.
C'est des choses nouvelles. Donc. C'est intéressant, mais ça peut faire peur un petit peu. C'est que même dans le reportage, il disait qu'il y avait peut-être des effets secondaires. Ça fait qu'on dit, bon, on va peut-être attendre un petit peu. Mais sinon, je suis persuadé que ça va venir, j'espère en tout cas, que ça va venir courant.
Ben ça donne un petit peu un espoir aux hommes qui seraient prêts à se responsabiliser du côté de contraception. On a aussi demandé à du monde à des femmes si elles donneraient 100% confiance à l'homme par rapport à ça. Mais je pense que la femme, vu que ça a toujours été elle, historiquement, qui s'en occupe, elle est un peu plus réticente. Là. Fait que ça reste à voir.
Mais oui, mais en tout cas, je pense que ça fait en sorte que ça a créé, pas comme des clichés, mais comme des attentes envers la femme dans la société. Je me demande, est-ce que ça pourrait être changé, vous, les auditeurs? Mais n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à essayer des méthodes comme ça? Est-ce que vous pensez que, comme les commentaires qu'on a pu lire tantôt sur la contraception... pas sur la contraception, pardon, excusez-moi. Sur les produits d'hygiène menstruels. Est-ce que vous seriez prêt à participer, à dites-nous ce que vous en pensez. Mais d'ailleurs, on a demandé à des personnes si elles pensaient dans un futur proche si l'homme serait prêt à se responsabiliser et si la femme leur ferait entièrement confiance. On écoute quelques témoignages.
J'aimerais ça te dire oui, mais je pense pas. Je suis pas sûr. C'est la fertilité, ça doit venir aussi avec cette espèce de fierté masculine qui est pas forcément bien placée. Moi, c'est mon avis.
Oui, forcément. Je trouve que ce serait bien que l'homme soit autant investi que la femme dans la contraception, puisque finalement, c'est des rapports à deux.
Bah ouais, en vrai, pour moi, ça revient au même. Hein. Que ce soit l'homme ou la femme, en vrai, ils doivent se protéger pareil autant l'un que l'autre.
Oui, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Mais c'est vrai que quand c'est nous qui avons le contrôle, on a tendance à plus avoir confiance que quand c'est l'autre personne. Je pense que ce soit du côté masculin ou féminin, la question se pose des deux côtés.
Je me fierais toujours à moi. J'aurais pas confiance à 100%, non. C'est pas assez, c'est pas assez vu, c'est pas assez connu pour que je puisse lui faire confiance à 100%. C'est pas assez dans les normes.
Toi, moi j'aurais une question pour Élodie. T'en penses quoi, tu sais, de ce qu'on entend dans les vox pop, de ce qu'on a parlé en général? Qu'est-ce que tu penses de la place de la femme justement dans la contraception avec les hommes, etc.
La place de l'homme aussi là-dedans.
Ouais. Oui, je sais pas. Moi, je penserais plus que en fait, faut laisser comme la chance à la science de se développer et tout, puis continuer d'en parler pour que justement, tu sais, il y ait plus de recherches qui se fassent là-dessus, puis que ce soit plus comme visible, puis qu'on voit que les possibilités sont fiables de produits, mettons, soit les contraceptifs pour les hommes, puis après ça, les gens feraient plus confiance, puis peut-être que là, l'homme pourrait avoir plus une grande part de responsabilité là-dedans, enfin. Mais je pense qu'il faut continuer d'en parler, enlever les tabous, puis laisser vraiment la chance à la science de développer et de faire des bons produits commercialisés.
Moi, il y a quelque chose qui me fait rire quand même, c'est quand on parle d'effets secondaires, tu sais, des personnes qui sont réticentes à essayer une nouvelle méthode ou en tout cas de c'est comme, bon oui, les piqûres, c'est quand même, pas excessif, mais en tout cas, c'est quand on parle d'effets secondaires, si je vous sors la notice d'une pilule pour les femmes, mm-hmm. elle fait genre 4 pages. Fait que pourquoi vous venez parler d'effets secondaires, je pense pas que ce soit un argument qui soit valable, parce que les effets secondaires, nous, ça peut causer de la dépression, des vomissements, des retardements, enfin, ça peut impacter nos menstruations, ça, enfin, des cancers, des caillots, en tout cas.
Mais comme je disais, scientifiquement, c'est juste parce que nous, c'est 14 jours qu'on est fertile, tu sais. Puis les hommes, c'est tous les jours. Fait que ça reste à voir la gestion d'hormones, ça aurait l'air de quoi sur 30 jours.
Oui, c'est sûr. C'est juste que je pense pas que ce soit un argument valable, justement, de dire...
Oh non, totalement.
En tout cas.
Ben, c'est un sujet super intéressant. En tout cas, on pourra en débattre un peu plus sur notre Instagram, si vous le voulez. Vous êtes bien sur CISM. Petite pause musicale avec Hallucine de Megan Hawk, qu'on va recevoir juste après pour la Bulle Culture de Mélissa. À tout de suite.
Ça tourne, je vieillis où je suis et j'hallucine. C'est ton écho qui touche ma peau, ton nom me suit et j'hallucine. Tu vivais dans les estres, mais c'est pas ta faute. Tu cherchais ton reflet dans les regards des autres. T'es passé par tous les stades et c'est pas ta faute. Réécrire ton histoire pour le prendre.
Merci, vous êtes bien sur CISM 89.3. Maintenant, on reçoit Megan Hawk pour la sortie de son prochain album.
Bien contente de pouvoir m'entretenir aujourd'hui avec Megan Hawk pour parler du lancement de son prochain album qui aura lieu cet automne et aussi des femmes dans le milieu de la musique. On la rejoint dès maintenant en direct. Megan, c'est tellement le fun de te recevoir. Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi.
Yeah, merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis très contente.
Ça nous fait vraiment tous plaisir de t'avoir parmi nous au studio de CISM et de participer à notre émission Bulle d'écoute. Avant de se lancer dans le sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Puis, tu as commencé à faire de la musique en 2020.
Oui.
Avec tes deux premiers gros EP qui
sont étrangères et dans la Lune, qui ensemble ont généré plus de 3,2 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique? Puis c'est quoi qui t'a amené à avoir une carrière dans ce milieu?
Mm-hmm. Je pense que j'ai toujours voulu faire de la musique, mais c'était vraiment un rêve quasi inaccessible. Mon Dieu, je me disais comment on peut faire de la musique dans la vie, comment on peut en faire un métier. Donc au départ, souvent, je vais dire que je voyais ça comme étant une fée des dents. Donc je me disais bon, être fée des dents, ça serait le fun, mais c'est-tu vraiment possible? T'sais, donc c'est quasiment comme ça que je voyais être chanteuse et tout. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était plus accessible que ça quand j'ai commencé à faire plein de TikTok en pandémie. Okay. Puis là, du jour au lendemain, mes vidéos sont devenues complètement virales. Donc quand j'ai sorti mon premier single, j'ai comme eu tellement d'écoute. Puis là, j'avais des gens du Québec qui m'écrivaient, qui voulaient comme avoir la chanson, mais j'avais aussi des gens de la France qui m'écrivaient. Donc, ça a comme juste tellement grossi par lui-même que ça a fait effet boule de neige. Puis après, là, c'est là où je me suis vraiment dit comme, eh bien, peut-être que je pourrais être chanteuse. Donc, j'ai juste continué à travailler fort dans la même lancée, puis me voilà aujourd'hui.
Mais c'est vraiment cool. Puis en plus, en 2020, tu sais, il y avait la COVID. Est-ce que c'était un peu difficile? Ou, bien, comme tu dis, les réseaux sociaux, ça t'a peut-être aidé à ce succès, dans le fond?
Oui, bien, c'est ça. En fait, sans la COVID, je pense pas que j'aurais eu autant. Ben oui, parce que c'est à cause de ça, vu qu'on était tout sur pause, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore à l'université. Donc là, même l'université a arrêté. Donc là, j'étais comme, mon Dieu. Donc tout ce que je faisais, c'était faire des réseaux sociaux. C'était aussi mon seul contact avec l'humain. À ce moment-là, on pouvait même plus se voir, tu sais. Donc, c'est à travers les réseaux sociaux que tout a commencé. Donc, la pandémie m'a quasiment aidée à ce moment-là. Ouais.
C'est le fun, ça. Puis moi, je te suis sur Instagram, puis je vois que tu as beaucoup de contenu, puis je trouve ça vraiment le fun de voir des artistes qui font ça, puis qui sont proches de leur public. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à te suivre sur Instagram. Merci. Au Megan Oak. Puis, est-ce qu'il y a des artistes québécois ou à l'international qui t'ont inspiré dans ta carrière ou qui t'inspirent en ce moment?
Tellement. On dirait que j'ai l'impression que mes inspirations, ils fluctuent, puis ils évoluent aussi à travers le temps. Donc, je te dirais qu'en ce moment, en plus, c'est une journée où on parle de la femme, ce que j'ai compris à CISM. Donc, en ce moment, je suis vraiment inspirée par beaucoup d'artistes féminines. Donc, je vous dirais, mettons, ma girl crush, ma ultimate girl crush, c'est Dua Lipa.
Oh, wow.
Genre, anytime, j'irai la voir en spectacle. Sinon, je pense aussi à Fletcher, je pense à Aurora. Tu sais, c'est vraiment des femmes extraordinaires qui, comme, en ce moment, font vraiment une différence au niveau de la musique pop dans le monde. Donc, je te dirais que je suis pas mal là-dedans. Je suis dans les girl power, là, je te dirais.
Ça, c'est le fun, c'est inspirant.
Oui.
Megan, tu as une équipe avec beaucoup de femmes autour de toi. Justement, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Puis, est-ce que tu trouves que c'est dur d'être une femme dans la musique au Québec?
Beaucoup de femmes autour de moi, évidemment. Tu sais, j'ai ma gérante Cheryl qui est dans mon quotidien à tous les jours, qui va même être avec nous au studio aujourd'hui. Et je te dirais que même avant d'avoir une gérante, pour moi, c'était full important que ça soit une femme. Je l'avais manifestée, là, je l'avais écrit dans un journal. Je voulais être gérée par une femme parce que tout simplement, je me voyais pas être gérée par un homme. Tu sais, il y a quand même le mot gérer dedans, là, c'est genre la gérance.
Ouais.
Donc, j'avais vraiment envie que ça soit une femme parce que je trouve que les femmes, ils ont peut-être ce côté un peu plus genre empathique, comprennent davantage. Je sais pas, c'était vraiment une intuition que j'avais. Au niveau de la scène, en ce moment, je suis juste accompagnée de boys. Donc, j'ai juste des musiciens qui sont des gars en ce moment, mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais rajouter des filles on stage avec moi. Puis pour ta question, est-ce que c'est difficile d'être une femme en musique? Quand même.
Ouais.
C'est vraiment, oui, je trouve ça difficile d'être une femme en musique, puis j'avais pas cette conscience-là avant. Puis maintenant, quand je vois toutes les programmations musicales, surtout au niveau des spectacles, au niveau de, des festivals, tu te rends compte qu'il y a vraiment plus d'hommes que de femmes sur nos programmations, donc c'est plus challengeant.
Est-ce que tu trouves que tu as des différences de traitement? Tu sais, par exemple, dans l'organisation de tes concerts, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence?
Je n'ai jamais vu de différence au niveau de comment on me traitait ou peu importe. Là, vraiment, j'ai toujours été super bien traitée, puis merci aux festivals qui m'ont mis en lumière, qui m'ont donné la place. Mais qu'est-ce que j'observe, par contre, c'est que il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les festivals. Je pense aussi que il faut leur donner davantage de place dans nos radios, comme vous le faites si bien, dans les festivals et tout. Donc, je pense que c'est un pas à la fois. Mais tranquillement, on s'en rend compte qu'il y a comme une équité à aller chercher, là.
Oui, c'est intéressant. Annie, t'avais quelque chose à dire?
Est-ce que tu reçois des commentaires un peu haineux, tu sais, face au fait que t'es une femme qui se met dans le monde des artistes?
Pas vraiment. Je pense pas j'ai reçu de commentaires haineux. Pour vrai, ma communauté est vraiment sweet, super sweet. Je pense qu'à non, je pense que, mon Dieu, j'ai déjà eu à un certain moment, là, quand j'étais vraiment dans l'œil du public, il y avait plus des commentaires, mais si ces commentaires-là sont négatifs, c'est que c'est pas ma crowd, tu sais. Donc, c'est juste des gens qui sont tombés sur ma vidéo, puis comme à ce moment-là, sincèrement, on dirait que ça me rentre dans une oreille, ça me sort dans l'autre. Mm-hmm. Donc, non, j'ai vraiment une communauté extraordinaire, là. Donc...
Oui, mais c'est le fun, on te soutient tout, en tout cas.
Merci!
Puis tes deux premiers albums, pour revenir sur tes premiers EP qui ont eu beaucoup de succès,
oui.
Tu parles beaucoup des thèmes de l'amour, des émotions, il y a un peu de vulnérabilité dedans, mais c'est vraiment, il y a de la force aussi. Mm-hmm. C'est quoi qui t'inspire le plus quand tu composes?
Encore une fois, je pense que ça fluctue, parce que là, l'affaire, c'est que maintenant, je suis en amour, donc je suis plus en peine d'amour. Donc avant, je m'inspirais vraiment beaucoup de ce sujet-là en début de carrière. Maintenant, évidemment, mon chum, je pense, a été ma plus grande muse. J'ai écrit tellement de chansons.
Vous travaillez ensemble.
Oui, donc c'est mon musicien, puis c'est aussi mon vidéaste. Donc on aime vraiment ça travailler ensemble. Donc c'est aussi ma muse, donc j'ai écrit plein de chansons sur lui. Mais sinon, en ce moment, qu'est-ce qui m'inspire? Tu sais, que ça soit à travers les épreuves que je peux vivre au quotidien. Ça peut être aussi, en ce moment, j'ai l'impression, tu sais, je suis comme à la mi-vingtaine. Je trouve qu'il y a comme, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le quarter life crisis, là.
Oui,
malheureusement, oui.
Je suis right in, là. Je suis drette dedans, là. Donc, en ce moment, je suis vraiment dans une période où, comme, justement, je veux aller découvrir, comme, OK, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux raconter et tout. Donc, je suis encore là-dedans en ce moment. Mm-hmm. Donc, je m'inspire de tout, mais beaucoup de comment je me sens au quotidien.
Oui. Puis ton prochain EP Avant-goût va sortir le mois prochain en octobre, donc c'est quand même bientôt.
Oui.
Comment tu décrirais cet album? C'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête?
Les premiers mots qui me viennent en tête, je te dirais vulnérable.
Mm-hmm.
Ensuite, je te dirais fire. Donc là, j'ai switché un peu l'anglais. Donc vulnérable, fire, puis dansant.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un mini EP, ça s'appelle Avant-goût, parce que éventuellement, ça va être l'avant-goût d'un full album, donc d'un premier album complet, parce que j'en ai jamais fait encore depuis le début de ma carrière. Puis là, j'avais envie de faire des tunes qui rock on stage, j'avais envie de faire des tunes où je peux bouger on stage, puis parce que j'adore danser sur la scène. Ça, sincèrement, c'est une de mes choses préférées dans mon métier, là, danser sur la scène, c'est tellement libérateur. Mais pour ça, j'avais besoin de tunes qui bougent. Donc,
c'est le fun, justement. Il y a ta chanson Rien à faire qui nous montre déjà un aperçu où il y a vraiment beaucoup d'attitude, justement tu danses. Puis moi je t'ai vu au festival international des Montgolfières de Saint-Jean, puis pour vrai t'avais tellement une énergie puissante, donc c'est vraiment le fun. Puis justement, est-ce que tu crois que cet album-là va se démarquer des autres un petit peu par rapport à ça?
Je pense que cet album-là, c'est est-ce qu'il va se démarquer des autres? Ben c'est sûr que si je le compare à mes deux premiers, déjà, il se démarque davantage dans son côté un peu plus dansant. Je pense que je m'assume aussi plus au niveau de mes paroles. Je sais plus qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Donc, par rapport à ça, il se démarque. Puis, en fait, je pense que c'est juste le début d'une aventure, tu sais. Donc, là, ça va être mon troisième EP. Puis après, là, je sens que je suis rendue à un autre step dans ma carrière. Puis que le prochain, peut-être la prochaine fois qu'on va se voir, mais c'est que je vais avoir un full album. Puis que là, ça va être gros. Puis on va avoir travaillé pendant longtemps. Donc, c'est ça que je visualise.
Mais ça serait vraiment génial. Puis, j'ai hâte de voir la suite des choses, justement. J'ai hâte de voir le parcours. En tout cas, ça fait un tout pas mal complet. Autant l'album que tout ce qui l'accompagne. Il y a les réseaux sociaux aussi où tu as également ton lancement officiel. C'est ça qui s'en vient à Montréal en octobre. Donc, tu es un peu partout. On invite les gens à écouter ton nouvel album. Megan, c'était vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. On aura d'ailleurs la chance de revenir sur la sortie de ce nouvel album dans une autre émission inédite où tu viendras performer en direct. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous à Bulle d'écoute aujourd'hui.
Merci. Merci. Je vous invite
pour la suite. Hein.
Let's go. Je vous invite tous à mon lancement, Montréal. 23 octobre, au petit campus. Vous êtes la bienvenue.
On va être là, c'est sûr et certain.
Merci encore, Megan. Vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. On va directement passer à la chronique Tourisme spatial avec Lauriane.
Oui, allô. Donc, que ce soit dans le monde artistique avec Megan Hawk ou dans le monde scientifique, il y a des femmes incroyables qui continuent de pousser les limites puis briser les préjugés qui nous ont longtemps enfermés dans des rôles préétablis. Ça a commencé le 16 juin 1963, qui marque un grand... Le programme spatial soviétique lance le vaisseau Vostok 6, ayant sur son bord l'astronaute Valentina Tereshkova. La première femme est alors envoyée dans l'espace. 50 ans plus tard, donc on est maintenant en 2023, c'est 11% des astronautes qui se sont rendus dans l'espace qui sont des femmes. C'est une avancée, mais il n'y a encore aucune d'entre elles qui ont posé le pied sur la Lune. Donc pour l'instant, les femmes ont encore un petit bout de chemin à faire, sauf que ça risque d'arriver plus vite qu'on le pense. Le 10-15 septembre dernier, Elon Musk, grâce à son entreprise SpaceX, qui est créée en 2002, orchestre la mission Polaris Dawn, la première sortie spatiale privée de l'histoire qui symbolise un nouveau chapitre pour le tourisme spatial commercial. SpaceX, dans le fond, en collaboration avec la NASA, ont envoyé la semaine passée deux hommes et deux femmes dans une mission de 5 jours financée par le milliardaire Jared Isaac Mann, qui a aussi fait partie de l'équipage, d'ailleurs, le financeur. Et il était donc 4, 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes qui faisaient partie de l'équipe de la NASA et 2 touristes qui se sont embarqués dans le voyage à bord du Falcon 9, surnommé le Skywalker. Donc on voit d'où l'inspiration vient. Ils se sont éloignés à plus de 1300 km de la Terre, juste pour que vous sachiez, le plus loin que l'orbite, la station internationale, le plus loin, c'est 400 km. Donc, les 2 femmes à bord, Sarah Gillis et Anna Menon, ont battu le record de celles qui sont allées le plus loin dans l'espace. Donc, c'est quand même une grande avancée. Et le jeudi 12 septembre, donc 2 jours après le décollage, SpaceX marque l'histoire alors que les 2 civils à bord ont pu effectuer une sortie pour la première fois dans le vide sidéral pour environ 10 minutes hors du vaisseau. Ce qui est bon à savoir, c'est que la navette, en fait, n'est pas équipée de SAS, c'est-à-dire le compartiment étanche qui est supposé faire la transition entre le vide sidéral et la navette. Donc, tout le monde dans la navette ont pu expérimenter l'expérience de l'absence de gravité, ce qui est très, très cool aussi. Les 2 femmes ont donc aussi participé à l'événement. L'objectif de la mission est en train de tester les nouvelles combinaisons qui ont pour objectif de coloniser Mars, en fait. Rien de moins de la part de Elon Musk, qui veut nous démontrer que voyager dans l'espace, ben, ça peut devenir plus accessible et ultimement attirer du financement privé. Parce que selon Musk, la NASA manque d'ambition, puis le manque de financement fait le budget baisser de 2% pour la NASA. Donc pour lui, c'est une opportunité, c'est une porte ouverte de prendre le lead dans le milieu. Puis aussi de prouver la fiabilité de SpaceX, parce que d'ailleurs, la compagnie a été choisie pour aller chercher 2 astronautes en ce moment qui sont pris sur la station internationale à cause d'une défectuosité de Boeing. Le voyage était supposé durer 8 jours, finalement ils sont là pour 8 mois. Donc ça démontre en fait que SpaceX a été choisi, qu'ils prennent en crédibilité. Puis ça donne aussi envie de croire en leurs 2 autres missions du programme Polaris qui sont déjà prévues. La dernière d'ailleurs, la 3e mission, a pour objectif la Lune puis Mars. C'est une grande chance, en fait, parce que aussi les femmes, apparemment, vont faire partie de cet exploit, parce que apparemment les femmes ont consommé moins d'énergie et d'oxygène que les hommes. Donc, les spécialistes européens de la médecine spatiale proposent que les femmes soient favorisées pour les missions vers Mars, par exemple. Donc, peut-être dans un avenir proche, les femmes aussi vont pouvoir dire un petit pas pour la femme et un grand pour la cause féministe. Qui sait, c'est pas très original.
C'est beau. Oh yeah!
Mais on aime quand même l'entendre.
Sorry, Tristan.
Fait que c'est excitant pour ceux et celles qui rêvent de faire le voyage. Par contre, la possibilité d'un tourisme spatial privé soulève de nouveaux enjeux assez importants. Selon Olivier Hernandez, l'astrophysicien spécialiste des galaxies et exoplanètes, il trouve que la tendance est vraiment inquiétante parce qu'on n'est pas suffisamment bien préparé à protéger cet espace dans le système solaire pour éviter justement qu'il y ait des compagnies privées fassent ce qu'elles veulent avec les ressources. Comme il dit, il n'y a absolument aucune réglementation en ce moment qui dicte à qui appartiennent les ressources. Donc, ça risque d'être difficile de corriger le tir vu la vitesse à laquelle se développe le phénomène puis la tendance. Pour l'instant, SpaceX, qui s'impose un peu comme un leader du commerce spatial, il a pris les rênes de la tendance, mais il y a d'autres startups aussi, telles que Blue Origin, mon anglais, de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, et Virgin Galactic, de Richard Branson, ce qui pourrait potentiellement occasionner des conflits dans le futur. Puis il reste qu'à avoir la chance de partir en tant que citoyen à la conquête de l'univers, ben, c'est une perspective assez incroyable. Vous qui nous écoutez et mes collègues, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partiriez, vous, dans l'espace si on vous donnait l'opportunité?
C'est la question que je me posais un peu.
Ah ouais? Moi, ça a toujours été mon rêve de partir dans l'espace. Quand j'étais petite, je disais que je voulais être astronaute. Bon, finalement, je suis pas bonne en maths, mais oh my god, ce serait incroyable de pouvoir partir. À quel prix?
hein, c'est sûr. Mais parce qu'il y a aussi énormément de conditionnement physique, mental et tout ça. C'est comme les astronautes qui sont restés bloqués dans la station spatiale. Mm-hmm. T'imagines, on dit tu pars pour une mission, je sais pas moi, de 2 semaines, puis tu te retrouves coincé là-bas pendant 8 mois. C'est énorme. T'imagines les risques que t'es prêt à sacrifier, enfin, tout ce que t'es prêt à sacrifier en fait pour ton métier.
Il doit avoir de la prévention par contre. Là.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est sûr que c'est quelque chose.
Mais je pense que il doit. Je pense que aussi, si, le problème, c'est qu'on commence à entrer dans cette ère-là, mais que souvent, depuis toujours, c'est des professionnels, etc., qui vont dans l'espace. Mm-hmm. Donc, moi, oui, en tant que tel, je répondrais oui, j'ai envie d'y aller. Mais il y a des problèmes aussi, de sécurité qu'on ne voit pas forcément, oui, parce c'est que sûr. C'est beau d'aller dans l'espace. Professionnellement pour des missions, etc., de professionnels, des scientifiques, etc., mais pour du tourisme, c'est pas la même chose, c'est autre chose, je pense.
Bon, mais c'est ce que j'allais dire. Genre, oui, j'ai envie d'y aller. Est-ce que je le ferais même si c'était possible? Je ne sais pas, parce que, imaginons, je vais dans les extrêmes, ok? Les auditeurs, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Imaginez, on est capable d'aller dans l'espace autant qu'on veut, etc., ça devient une zone commerciale. Imaginez, je sais pas, moi, les créateurs de mode qui se diraient, allez, nouvelle collection, on va faire un défilé dans l'espace. Enfin, je trouve que ça perdrait un peu en crédibilité, alors qu'aujourd'hui, tu sais, quand on dit, ok, la NASA a réussi à faire ça, ou ils ont réussi telle mission, ou ils ont réussi à aller sur telle planète, pour nous, c'est grandiose parce que c'est pas quelque chose qui est accessible. Pour nous, c'est quelque chose qui reste justement. Ben, faut quand même avoir les capacités, faut avoir les connaissances, faut être coaché. Si on passait un peu à la commercialisation de l'espace, puis tu sais, à la rendre beaucoup plus accessible, je pense que ça perdrait un peu en. Pas en magie, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu.
Oui, 100%. Mais l'agence spatiale russe avait déjà emmené des touristes, en fait, depuis 2001. C'est juste que là, c'est, ça, comme tu dis, ça vient d'entreprises privées. C'est donc, il y a vraiment cette conception un peu non contrôlée. Il n'y a pas de loi.
Ça me fait un peu penser au sous-marin, le Ocean.
Ouais, exactement.
Ouais, Gate, là, qui était parti en exploration.
Parce que forcément, au niveau sécurité, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent pas, comme le sous-marin. Mais tu sais, même comme l'aviation, l'aéronautique, maintenant, c'est pas infaillible, comme les transports en règle générale. Mais ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on connaît pas beaucoup. Donc l'ouvrir au tourisme, c'est déjà, ça va toucher forcément, je pense, les personnes riches, là, milliardaires, millionnaires, etc. Mais c'est une grande question quand même. Puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, que beaucoup de problèmes sur Terre. Actuellement, sur notre planète, on a du mal à gérer.
Ouais.
Donc,
Mais c'est comme, il y avait beaucoup d'articles qui étaient parus concernant la sécurité, ce qui devrait... Wow! 1, 2, 3! Est-ce qu'il devrait y avoir une régulation mise en place, que ce soit pour les océans ou l'espace? Si je pars dans l'optique de donner mon opinion, je pense que à l'échelle où ça se passe, c'est moins grave d'explorer les océans avec des entreprises privées que d'aller explorer l'espace. Les arguments, y en aurait énormément, mais je vois ta face, Lorraine, elle se demande qu'est-ce qu'elle me raconte. Non, mais dans le sens que, oui, je trouve que les océans n'auraient pas forcément besoin de réglementation pour aller les... Tu sais, comme ils ont fait avec Ocean Gate, etc. Parce qu'après, l'océan, ça reste quand même... c'est un endroit qui est ouvert à tous, il n'y a pas de frontières... Enfin, oui, il y a des frontières, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de... On ne te demande pas en visa, on ne te demande pas quelque chose ou de payer pour aller à la mer, à l'océan, à ce que je sache. Alors que l'espace, comme je disais, ça perd en prestige parce que c'est beaucoup plus loin, ça demande pas les mêmes ressources. Niveau environnement, c'est pas la même chose non plus.
Mm-hmm. Quoi qu'il y ait quand même des déchets, il parlait aussi du risque d'envoyer des gens dans l'espace. C'est aussi les déchets, est-ce que ça va donner un risque, un danger pour les futures expéditions plus scientifiques? Est-ce que ça va entraver en fait leur travail, qui est quand même important? Puis tantôt, on parlait... les touristes, ils ont quand même une formation. Là. Si tu veux aller dans l'espace, il y a quand même une formation à faire. Mais c'est seulement 1 à 2 ans, alors que les professionnels, c'est de 4 à 6 ans.
Ouais.
Fait que tu te dis, si t'es pris 8 mois au lieu de 8 jours, t'as juste 1 an de préparation.
Puis on connaît surtout le fait que c'est compliqué d'aller dans l'espace. Donc je sais pas si une formation... Il peut tout... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu illusoire dans le sens où on contrôle beaucoup moins ce qu'il y a à l'extérieur de notre planète. Puis en plus, on parlait d'écologie la semaine dernière. Justement, je trouve qu'il y a aussi un enjeu quand même. Parce que oui, aller dans l'espace, scientifiquement parlant, pour faire des recherches, pour... mais aller dans l'espace pour du tourisme... C'est autre chose aussi, c'est une autre affaire, je trouve, qui est quand même...
C'est un type d'organisation, là.
Puis on est un peu comme des cobayes, dans le sens où les deux touristes qui ont été emmenés, ils ont testé des nouveaux... désolé, mon anglicisme, suit, d'astronautes.
Oui, les
combines.
Merci. Les nouvelles combines, merci. Ouais. Ils ont testé pour la première fois dans le vide sidéral accroché à un fil. Donc, je ne sais pas si j'aurais envie d'être un cobaye. Peut-être dans 20, 30 ans, si c'est rendu commun, mais aujourd'hui.
Mais je pense que c'est un sujet qui va devenir aussi gros que l'IA dont on a parlé.
Ouais, ouais. Mm-hmm.
Parce que là, c'est que le début, mais je pense que dans quelques années, on aura encore d'autres débats qui partiront
mais
là-dessus.
Tu parlais tantôt d'aller sous l'eau, tu sais. Je pense même que si on me demandait de faire d'être cobaye pour essayer quelque chose très profond dans l'eau, autant que l'espace, je pense pas que j'aurais les guts de le faire.
Moi et ma thalassophobie, ouais. En sueur.
Et non, gratuitement, tu le ferais?
Ça dépend des risques. Je pense que tout dépend des risques. Ouais. Tout, tu sais, de l'organisation.
Ouais, mais même si on dit il y a pas de risque, c'est ce qu'on leur avait dit dans le Ocean Gate. Ocean, c'est quoi le nom à chaque fois? J'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est Ocean, soit un chiffre.
C'est Ocean Gate.
J'aurais vraiment dû me renseigner là-dessus, mais ouais.
Non, c'est ça.
On leur avait dit non, il y a pas de risque.
Les auditeurs, corrigez-nous si on dit pas la bonne chose. Ouais. Mais
d'ailleurs, n'hésitez pas à les répondre à la question si vous iriez sur Mars sur notre Instagram. On commence tranquillement à nourrir le Instagram. Enfin, n'hésitez pas dans les commentaires. On a posté une story aujourd'hui, ce matin d'ailleurs. Donc, on attend votre avis. Donc, c'est tout pour moi.
OK, parfait. Bah, merci d'avoir écouté Bulle d'écoute sur les ondes de CSM au 89.3. La météo aujourd'hui avec un maximal de 20 degrés dans la région de Montréal et ciel variable. Sortez les parapluies demain et jeudi. Il va pleuvoir avec un total de 40 mm de pluie et des maximales à 18 avant un week-end bien ensoleillé et très doux pour les randonnées automnales avec un maximum pour dimanche de 21 degrés. Déjà l'heure de se quitter, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'était Bulle d'écoute sur les ondes CSM au 89.3. S'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, envoyez-nous un message sur notre Instagram. Vous pouvez également réagir à l'émission sur notre Instagram. Bulle-d'écoute.officiel. Vous pouvez réécouter cette émission sur Spotify, Apple Podcast ou sur le site du CSM. Sur ce, bon après-midi. On se dit à mardi prochain, même heure. Bye.
Bye bye.
Bye bye. Bye.
Merci.
Venez découvrir plus de 200 artistes émergents pendant 5 jours dans le Mylan et ses environs. Ne manquez pas Uri, Cecil Believe, Edith Nylon, Alex Ferns, Jen Penny, Larynx, Virginie B et beaucoup plus. Billets et passes en vente maintenant sur popmontréal.com.
Oh non, le prof de maths m'a filé une sale note dans le contrôle surprise d'hier. Je vais me faire zigouiller par mes vieux. Oh, et je peux dire adieu à la bagnole qu'il m'avait promis pour mes 16 ans.
Tu veux dire que tu vas devoir aller au concert de la pause musicale avec ce vieux vélo?
Oh,
c'est trop la honte.
Je sais, je suis humiliée pour le restant de l'année scolaire.
Oh mon Dieu, Becky. Cindy, viens par ici.
Oh, ok, ok, sois cool. Hey!
Hey, salut Becky. Beau vélo. Tu viens à la pause musicale?
La pause musicale, la nouvelle série de concerts de CISM sur le campus de l'Université de Montréal. Les 5, 10 et 25 septembre avec Étienne Dufresne, Naïma Frank et Mirocino. Toutes les informations au cism893.ca.
Hey, 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 ici Simon Pollon-Gervais, votre animateur de l'émission « Toutes et dans toutes ». Votre rendez-vous musico-culturel, amical et psychotronique. On va y explorer les liens entre la musique, les artistes et le monde. C'est un rendez-vous les vendredis 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de CSM.
Avoir su, c'est le 15e album solo de Danny Placard, véritable pilier de la musique folk au Québec depuis maintenant plus de 20 ans. C'est un album de 12 tunes intimes et introspectives qu'il va présenter en spectacle partout dans la province dès cet automne. Avoir su de Danny Placard. Nouvel album disponible sur toutes les plateformes dès le 27 septembre.
Ici Alex Ferns, vous écoutez CISM. Je me laisse, je me promène, je me prépare.
Hello, soy c'est petit Billy Boo. Et puis, moi, on va être en présentation live à CISM le jeudi 26 septembre à 19h. Puis si tu m'écoutes pour you don't want to know.
Dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I'm sin. The rush, the excitement.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.